Salut à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission Point de vue, votre tour de l'actualité locale au pays. Aujourd'hui, je crois que je me suis senti seul toute ma vie. Avoue une jeune femme de 22 ans qui décide de briser son silence et de lancer « Les amis, pas d'amis ».
Les deux premières heures, à tous les 5 minutes, je regardais les vues, les statistiques, j'étais comme « Amira, tu supprimes ça, là, tu supprimes ça, genre c'est gênant, là, t'es tellement vulnérable là-dessus, les gens vont te juger, voyons, c'est quoi ton problème, là, de partager ça au monde ».
Les élus municipaux se préparent au pire en vue des élections municipales 2025 au Québec. À l'ordre du jour, intimidation, insultes et menaces.
Quand on tombe à des menaces envers des pompiers, envers des personnes qui ont donné leur vie pour notre population, j'ai un problème. Quand il y a des campagnes de salissage faites aux politiciens en place, faites aux incendies, faites aux services, j'ai un problème avec ça. Les décisions qu'on prend, c'est pour le bien de notre communauté puis la collectivité.
Le chanteur Daniel Dan perd son entreprise, mais pense ses plaies. Grâce à la musique country.
Et j'ai commencé à chanter pour le fun, me changer les idées. Et de fil en aiguille, je faisais des soirées d'amateurs. Et là, la piqûre a pris, puis les gens en demandent. Puis aujourd'hui, je ne fais que ça depuis 8-9 ans. Là, je fais juste ça, de la musique. J'ai quand même ma vie à chanter.
Et l'ex-jockey Ron Turcotte n'est plus. Ses records et sa mémoire perdurent. Il sera honoré au Nouveau-Brunswick.
Monsieur Turcotte a laissé sa marque à travers la province, à travers le pays, puis à travers les États-Unis. Alors, c'est une grande perte pour la communauté.
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
Bonjour, merci d'être là. Un plaisir, comme toujours, de vous accueillir. Boris Chassagne au micro avec vous pour la prochaine demi-heure. Et on lance le bal à Québecville pour vous parler d'un sujet que plusieurs trouvent difficile, celui de la solitude. Depuis le début de ma vie, je me sens seul. Voilà ce qu'avoue une jeune femme de la ville de Québec qui, pour finalement briser son isolement, a lancé le groupe Facebook « Les amis, pas d'amis » pour passer de la solitude à l'amitié entre adultes. Car le sentiment d'être seul persiste au Canada. Vous serez peut-être comme moi étonné d'apprendre que la moitié de la population canadienne se sent toujours ou parfois seule, selon de récentes données compilées par Statistique Canada, un sentiment éprouvé de manière plus importante d'ailleurs chez les jeunes. Confrontée donc à sa propre solitude, Amira Amadi, une influenceuse de Québec âgée de 22 ans, a créé le groupe Facebook « Les amis, pas d'amis » pour encourager tous ceux qui se sentent seuls à se rassembler. Voici Alice Zanetta.
Oui, prochainement, on fait ça.
On va prendre un name tag.
Et on fait ouais,
chacun un name tag.
Tout a démarré dans le monde virtuel des réseaux sociaux, mais aujourd'hui, c'est en personne qu'une dizaine de jeunes de Québec, majoritairement des femmes de la début vingtaine, ont décidé de se rencontrer ce mercredi soir sur les plaines d'Abraham pour briser l'isolement.
Pour sortir de chez nous un peu, puis me faire des nouvelles rencontres, puis peut-être développer de nouvelles amitiés, mais tu sais, je me mets pas de pression, là. Depuis que je suis seule en appart, et pas mal tout depuis le début de ma vie, je pense que je me sens seule. Fait que c'est bon à temps pour les gens.
On l'associait souvent à la vieillesse, mais la solitude est aujourd'hui davantage ressentie par les jeunes. Les données de Statistique Canada, publiées en février dernier, indiquent que 56% des 15-24 ans affirment vivre souvent ou parfois de la solitude. Un sentiment plus particulièrement éprouvé chez les femmes. C'est justement en voulant briser sa propre solitude que l'influenceuse de Québec, Amira Amadi, a récemment pris la parole sur TikTok.
J'ai pas d'amis, comme vraiment. Là, je vois le monde sur les réseaux sociaux, ils ont des soupers, ils vont en voyage, ils font des activités tous les jours avec leur grand chum, genre.
Une prise de parole qui ne s'est pas faite sans appréhension, avoue Amira Amadi en entrevue.
Quand j'ai posté la vidéo, en fait, les deux premières heures, à tous les 5 minutes, je regardais les vues, les statistiques, j'étais comme « Amira, tu supprimes ça, là, tu supprimes ça ». Genre, c'est gênant, là. T'es tellement vulnérable là-dessus, les gens vont te juger. Voyons, c'est quoi ton problème, là, de partager ça au monde? Mais finalement, j'étais comme, ben non, là, je voyais les feedbacks. J'étais comme, ah, c'est positif.
À la suite d'un commentaire d'une abonnée sous sa vidéo, Amira Amadi a lancé le groupe Facebook Les Amis, pas d'amis, pour que tous ceux qui se sentent seuls, peu importe leur âge, créent des connexions en dehors des réseaux sociaux. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle a organisé cette première rencontre hebdomadaire du mercredi soir sur les plaines.
J'ai vraiment vu qu'il y avait un manque, il y avait un besoin. Là. Genre, les gens, j'étais pas seule à être seule, là, t'sais. Avec les réseaux sociaux, beaucoup, il y en a qui se cachent derrière leur écran, pas mal plus qu'ils se cachaient auparavant. Avant, si tu voulais du social, tu devais parler, tu devais sortir de chez toi pour avoir du social, puis c'est humain de vouloir du social. Mais maintenant, tu peux facilement retrouver du social avec des inconnus qui habitent en Chine si ça te tente.
Le groupe Les Amis Pas d'Amis a accumulé plus de 4200 membres en quelques jours, avec des dizaines de publications quotidiennes de personnes partout au Québec, allant de 17 à 50 ans et plus. Plusieurs publient sous des profils anonymes en exprimant leur gêne d'avouer qu'ils n'ont pas d'amis. Mais pourquoi est-ce autant tabou de se dire sans amis? La professeure de psychologie à l'Université de Sherbrooke, Andréane Légaré, explique que la société considère le fait de ne pas avoir d'amis comme un échec personnel, ce qui entraîne un tabou et donc on s'isole. Bref, c'est un cercle vicieux. Mais se sentir seul, c'est de plus en plus fréquent, surtout chez les 18-34 ans, la tranche d'âge la plus paradoxalement connectée aux technologies.
Depuis 2020, les jeunes adultes sont le groupe de la population qui ressent le plus de solitude. Historiquement, on associait la solitude aux personnes plus âgées en raison des pertes des relations sociales, pertes des êtres chers, l'effritement de réseau. On a obtenu des données récemment d'une enquête canadienne qui démontrait que 66 % des 18-34 ans rapportait des niveaux de solitude modérés à élevés, et c'était vraiment le groupe de population en termes de démographie qui rapportait le plus de solitude. Lorsqu'on interroge les jeunes adultes à savoir qu'est-ce qui pourrait augmenter leur sentiment de solitude ou qu'est-ce qui pourrait y contribuer, l'utilisation des réseaux sociaux et l'utilisation des jeux vidéo ressortent particulièrement.
Ce que certains chercheurs appellent l'épidémie de solitude est un enjeu de santé publique, rappelle la professeure Légaré. La solitude chronique peut entraîner des problèmes de santé mentale, pousser au suicide ou encore avoir des impacts sur la santé physique en augmentant les risques de maladies cardiaques, d'hypertension ou de diabète. La professeure Andréane Légaré, qui dirige l'équipe de recherche sur la santé et le bien-être numérique à l'Université Sherbrooke, salue donc l'initiative de créer un groupe Facebook comme les Amis Pas d'Amis. Elle nous partage d'ailleurs quelques pistes pour éviter que les écrans augmentent notre sentiment de solitude.
Donc le fait, par exemple, d'uniquement consulter des contenus, ce qu'on appelle une utilisation passive, c'est rattaché à plus de sentiments de solitude, alors que les personnes qui s'engagent activement, qui vont publier des contenus, qui vont échanger avec des personnes avec qui elles sont en relation, vont ressentir moins de solitude. Sur le plan des piliers du bien-être numérique, il y a aussi cette idée de s'offrir des moments qui sont des moments de déconnexion des écrans et des moments de connexion avec notre entourage. Donc, ça peut être justement de prendre du temps pour aller voir des amis, aller voir des membres de sa famille. Puis lorsqu'on est une personne qui a un réseau social qui est plus pauvre, mais ça peut être une bonne idée d'aller s'engager justement dans des activités sur le plan communautaire ou de s'inscrire dans des groupes sportifs, participer à des ateliers créatifs, s'inscrire à un cours de poterie qui nous permet d'établir des contacts avec d'autres personnes, de rompre notre isolement, puis de composer mieux avec le sentiment de solitude.
Mais est-ce qu'on a plus de mal à se faire des amis aujourd'hui qu'avant? Ou plutôt, est-ce qu'on valorise davantage l'amitié? Bien avant l'omniprésence des écrans, dans les années 2000, le sociologue britannique Graham Allan anticipait déjà que les amitiés allaient se tailler une place de plus en plus importante dans notre société moderne occidentale, alors que l'on assiste à l'éclatement de la cellule familiale traditionnelle et un affaiblissement des liens communautaires. La psychologue Andréane Légaré.
On est présentement dans un changement de paradigme où les relations sont moins durables, on observe des formules de couple qui sont un peu plus éclatées que ce qu'on observait avant, ou du moins il y a une démocratisation de ces formules de couple-là, ce qui amène certaines personnes à reconsidérer la valeur des amitiés comparativement à la valeur de la famille ou la valeur du couple, sachant que nos relations d'amitié peuvent parfois être plus durables que nos relations conjugales.
Pour se faire des amis, la psychologue américaine Jessica Tapana rappelle deux éléments fondamentaux : se voir régulièrement et partager des intérêts communs. L'âge adulte ne signifie donc pas la fin des amitiés, et plusieurs voix, comme l'autrice québécoise Karine Côté-Andretti, appellent à valoriser ces relations amicales dans nos vies. Alice Zanetta pour IJL à Québec.
Des questions, commentaires ou suggestions? Écrivez-nous radio@commercialfréquenceinfo.ca.
Et s'il y en a qui se sentent parfois seuls dans la foule, ce sont bien les élus municipaux qui doivent au quotidien affronter les affres de leurs électeurs, qui leur servent plus souvent qu'à leur tour menaces, insultes et intimidations. Et à l'approche des élections municipales du mois de novembre prochain, l'intimidation et la violence verbale qui s'invitent déjà aux séances publiques des conseils municipaux risquent de prendre de l'ampleur. La politique de proximité est devenue un sport extrême, estime un nombre croissant d'élus qui vont jusqu'à dire qu'une simple visite au dépanneur peut les exposer à des voies de fait. En Mauricie et au centre du Québec, les exemples sont nombreux. Publications sur les réseaux sociaux, courriels orduriers, engueulades durant les séances publiques en sont quelques exemples. Des citoyens mécontents vont jusqu'à s'en prendre à des employés municipaux. Voici Robert Savard.
La politique de proximité, on le sait, vient avec son lot de désagréments. De plus en plus, les élus municipaux sont visés par des courriels haineux et sont même chahutés lors des assemblées publiques. Mercredi soir, le maire suppléant de Sainte-Anne-de-la-Pérade a dû mettre fin abruptement à une assemblée d'information parce qu'il y avait trop de chahuts. Hugo-Pierre Bellemare est même en train de revoir son implication sur la scène municipale.
Il peut y avoir des divergences, c'est sain pour une démocratie qu'il y ait du monde qui soit pour, qui soit contre. C'est normal d'avoir des débats, c'est normal. Quand on tombe à des menaces envers des pompiers, envers des personnes qui ont donné leur vie pour notre population, j'ai un problème. Quand il y a des campagnes de salissage faites aux politiciens en place, faites aux incendies, faites aux services, j'ai un problème avec ça. Faisons des débats normaux, sans crier, parler, ça c'est sain. On veut pas de division dans notre communauté, on veut une unité. Les décisions qu'on prend, c'est pour le bien de notre communauté puis la collectivité.
Et ce n'est pas le seul endroit où le torchon brûle. À Saint-Roch-de-Mécinac, la mairesse Rita Dufresne est chahutée et menacée à chaque assemblée publique par la directrice générale et ses supporters. Elle a décliné nos demandes d'entrevue par crainte de représailles. Deux enquêtes de la Commission municipale du Québec ont blâmé la directrice générale pour son attitude. Au centre du Québec, le maire de Sainte-Eulalie a obtenu la protection du plan de lutte contre l'intimidation de la Sûreté du Québec après avoir dénoncé un climat toxique à des séances publiques. La MRC de Mickinac a dû museler un opposant aux éoliennes en lui envoyant une mise en demeure. Le troll avait menacé un employé cadre sur Internet. Le poste en question a été retiré, mais est-ce que cela est suffisant? La préfète Caroline Clément croit que non.
Est-ce que malgré des excuses ou le fait de mentionner que le poste est une satire, est-ce que ça l'excuse ce type d'agissement? À mon avis, non.
Selon elle, les citoyens ont le droit de critiquer des idées, mais pas d'attaquer personnellement les personnes, surtout les employés municipaux.
On peut attaquer les idées de quelqu'un ou d'élus. Les élus, souvent, là, on est exposés à ça, parce qu'en théorie, on est censé avoir le dos large, là. Mais au niveau des employés, par exemple, là, on peut pas aller jusque-là. Là. C'est inacceptable. Puis, la liberté d'expression, là, ça a quand même ses limites.
Le confinement causé par la pandémie et la facilité de communication que procurent les réseaux sociaux semblent avoir envenimé la situation. Les élus municipaux ne peuvent que souhaiter que les débats se déroulent dans le respect des êtres humains. Robert Savard, IJL, Shawinigan.
Pour rappel, les électeurs de près de 1000 municipalités québécoises seront conviés aux urnes ce 2 novembre. À l'issue du scrutin de la dernière élection du 7 novembre 2021, 2954 postes de mairesse ou de maire, de conseillère ou de conseiller ont été pourvus au moyen d'un scrutin, alors que 4970 d'entre eux ont été élus sans opposition ou par acclamation, si vous préférez.
Vous écoutez Point de vue avec Boris Chassagne.
Winnipeg, Manitoba, pour vous parler rapidement d'un camp d'été sportif et de leadership noir qui a réuni cet été une vingtaine de jeunes de 13 à 16 ans autour d'activités ludiques. Ceci à l'initiative du coach sportif Stanislas Bell, qui a lancé donc ce camp pour jeunes baptisé camp SCB, Strength, Curiosity and Boldness. Ce camp s'inscrit dans le cadre d'un programme de leadership sportif destiné aux jeunes de la communauté noire du Manitoba. Explorez-le dans son intégralité, en compagnie de notre journaliste James Olivier sur fréquenceinfo.ca. L'auteur-compositeur-interprète québécois Daniel Dan se remet d'un moment difficile dans sa vie. Cet ancien entrepreneur qui a tout perdu a pu panser ses plaies grâce à la musique, et si bien qu'il vit entièrement de son art aujourd'hui. C'est en 2010 qu'il a pleinement embrassé sa passion pour la musique. Il a depuis 3 albums à son actif qui contiennent plusieurs compositions originales. Dans ses chansons, Daniel Dan affirme vouloir transmettre des messages de foi, d'espoir et d'amour. L'artiste se produit sur scène un peu partout au Québec et au Nouveau-Brunswick. Rencontré à Chéticamp, Daniel Dan est ici au micro de Daniel Aucoin.
Daniel Dan, bonjour.
Bonjour Daniel, ça va bien?
Ça va bien, bienvenue à Chéticamp.
Ben, je suis tellement content d'être ici, là. C'est tellement... Moi, j'appelle ça un beau pays. C'est tellement plaisant d'être avec vous autres. Le monde est tellement chaleureux, puis on a beaucoup de plaisir ici.
C'est pas ta première visite au Cap-Breton?
Non, c'est la troisième, mais c'est la deuxième en tant qu'artiste. En 2019, on était venu ici passer quelques jours. Et c'est loin de chez nous quand même, hein? C'est 14h, 15h, puis en motorisé, c'est presque une fois et demie. Donc, c'est beaucoup de trajets, mais on est tellement heureux d'être ici cet été, là.
Comment toi, t'as été premièrement introduit à la musique country?
Oh mon Dieu! Je dirais que c'est une longue histoire, mais pour la faire rapide, pour la faire courte, c'est que j'étais dans le monde des affaires, puis en 2006, je me suis fait voler mon entreprise, l'équivalent d'à peu près 4 millions de dollars, et du jour au lendemain, je me suis ramassé plus d'emploi, absolument rien. Et pour me changer les idées, je suis allé au magasin, puis j'ai acheté une guitare pour me changer les idées, au lieu d'acheter un fusil pour me défendre. Et j'ai commencé à chanter pour le fun, me changer les idées. Et de fil en aiguille, je faisais des soirées d'amateurs. Et hop, les gens disaient « Ah, t'as une belle voix, tu devrais continuer, puis tout. » Puis moi, je m'étais dit, je leur disais même, je disais « je vais faire un CD, vous n'achèterez pas. » Puis, je vais arrêter de chanter, c'est tout. C'est pas... Mais là, la piqûre a pris, puis les gens en demandent. Puis aujourd'hui, je ne fais que ça depuis 8-9 ans. Là, je fais juste ça, de la musique. J'ai gagné ma vie à chanter.
C'est qui certains artistes country qui ont influencé ta musique au cours des années, quelques-uns?
Peut-être au cours des années, mais je te dirais que... Moi, j'ai pas une influence particulière parce que moi, j'ai fait plus jeune, je faisais du tam-tam, du djembé africain. J'écoutais beaucoup de blues. Il y avait le festival de jazz que j'allais à Montréal et tout ça. Et aussi drôle que ça puisse paraître, je m'étais dit, moi, le country, c'est vraiment pas mon bac. J'aime vraiment pas la musique country. Et je suis parti pendant 2 ans et demi à motoriser. Puis j'ai fait New Orleans, Nashville, Memphis. Et j'écoutais tout le temps de la musique country sans le savoir. Et Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, le Nouveau-Brunswick, c'était toute de la musique country. Et ça m'a amené à aimer cette musique-là. Puis aujourd'hui, je ne fais que de la musique country.
Est-ce que tu as quand même composé plusieurs chansons au cours des années?
Oui. Aujourd'hui, j'ai 3 CD. Et sur les 3 CD, mon Dieu, je ne sais pas combien j'en ai composé là-dessus, par exemple. Je vais en avoir peut-être une 10, 12 peut-être que j'ai composé, dont une qui a été composée en 2021, qui est sortie en 2021, qui s'appelle « Laissez-moi vivre ma vie ». C'est une chanson que les gens me demandaient en spectacle. Ils disaient « Dan, tu devrais composer une chanson sur la maladie de l'Alzheimer ». Et je ne connaissais pas cette maladie-là. Je savais que c'était quoi cette maladie-là, mais pas plus que ça. Puis là, les gens me demandaient « Ah ouais, fais quelque chose là-dessus ». Fait que j'ai commencé à écouter les gens parler de ça. « Parle-moi de la maladie. Dis-moi c'est quoi tout ça ». Et à fin de compte, je me suis fait ma propre idée de cette maladie-là. Et j'ai écrit une chanson qui n'est pas... C'est pas triste. C'est pas une chanson qui est triste. C'est une chanson qui est up-tempo, qui est assez rapide. Mais c'est une chanson qui rend hommage aux gens qui souffrent de cette terrible maladie-là, mais surtout les aidants naturels, parce que les aidants naturels, c'est eux, dans le fond, qui subissent cette maladie-là. Et les commentaires sont vraiment excellents. Mais j'en ai plusieurs autres aussi. Une chanson qui s'appelle « Dis-moi mon Dieu », qui est une chanson sur un bébé qui est mort-né, que ma conjointe avait une garderie, puis la maman, tous les matins, arrivait, puis elle disait aux enfants, « Ah, oh, Julie va avoir un bébé, Julie va avoir un bébé », puis elle montrait la bédaine à tous les enfants. Et quand ça a été le temps d'aller accoucher, Sylvie a reçu un appel en disant que le bébé est mort-né. Et à ce moment-là, j'ai écrit une chanson d'un jet. Là, ça a été tellement facile, mais ça ne s'est jamais reproduit. Je suis plus capable d'écrire facile demain.
Qu'est-ce que toi, tu souhaites que les gens qui écoutent tes albums, qui écoutent ta musique, vont retenir de tout ça? C'est quoi le message que tu souhaites passer?
Si on part de loin, moi, quand j'étais en entreprise, mon but n'était pas de faire de l'argent. Mon but était d'aider les gens, d'avoir un OSBL, d'avoir une organisation qui aide les gens qui sont démunis, les personnes âgées qui sont seules dans la vie, les enfants qui sont maltraités, tout ça. Et mon but dans la vie était que puisse avoir un OSBL pour tous les gens qui ont besoin. Et vu que j'ai pu mon entreprise, ben j'ai perdu cet objectif-là, ce but-là. Et dans la musique, ce que je retrouve, c'est ça. C'est que les gens viennent me voir et me disent « Ah, cette chanson là me rappelle ça, me donne ça. L'autre, ma maman est comme ça, ma maman va décéder, là. » C'est que les chansons que j'écris, ça touche les gens, à mon avis, qui en ont besoin.
Au cours des années, la musique country a toujours accompagné Daniel Dan à travers les hauts et les bas de sa vie. Le son de Daniel Dan est défini par son ton unique, ses mélodies accrocheuses et sa sensibilité à laquelle on peut s'identifier. Au-delà du succès, Daniel Dan souhaite rester fidèle à l'esprit de la musique country et de toucher un large public grâce à son talent. Ici Daniel Aucoin pour IJL à Chética.
Depuis la Nouvelle-Écosse, on fait un petit croche à Fredericton au Nouveau-Brunswick où Sébastien Caron nous apprend que la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick se résigne et annonce que le concours accro de la chanson « Quel pilote » sera mis sur pause pour l'année 2025-2026. Ce concours a, au cours des 20 dernières années, permis à des centaines d'élèves du secondaire de monter sur scène et de bénéficier d'un programme de mentorat unique, mais la Fédération ne peut plus se permettre, dit-elle, d'en faire les frais. Ces frais qui s'élèvent à plus de 200 000 $ chaque année, c'est pas rien. La situation était, dit-elle, devenue insoutenable. Ce concours devra repenser sa formule et trouver de nouveaux partenaires. Cette pause forcée est présentée comme une opportunité de réinventer Accro de la chanson. Ici, Léo Babineau, secrétaire trésorier de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, au micro de Sébastien Caron.
Donc, malheureusement, avec l'économie présente, on a toujours dû piger dans nos propres fonds ou nos fonds de fonctionnement pour financer Accro de la chanson. Ce n'est vraiment juste plus faisable pour l'organisme. On veut assurer sa pérennité financière. Donc, il faut prendre une année de pause, essayer de repenser Accro de la chanson, voir comment on peut continuer, faire sûr que ça dure pendant une autre 20 années. Et aussi, de travailler plus avec nos partenaires et voir comment on peut bien réorganiser ceci pour les décennies à venir. On va continuer à avoir ces conversations avec les jeunes et vraiment s'assurer que les jeunes ont la main à la pâte pour repenser Accro et voir peut-être si on peut avoir d'autres disciplines dedans et que Accro représente quelque chose que les jeunes veulent toujours. Et vous pouvez aller sur les médias sociaux et vraiment partager pourquoi vous avez Accro à cœur et comment et pourquoi ça compte pour vous et pourquoi c'est important et puis on peut continuer à améliorer.
On a les pieds bien collés dans l'est du pays. Le légendaire jockey Ron Turcotte n'est plus. Ron Turcotte était bien plus qu'un jockey pour la communauté de Drummond au nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Ron Turcotte est décédé donc le 22 août à l'âge de 84 ans. Monsieur Turcotte a marqué le sport équestre en remportant la triple couronne en 1973 avec son cheval Secrétariat. Pas d'accent aigu à Secrétariat. Il s'agit encore à ce jour de l'un des plus grands exploits de l'histoire de ce sport. Au cours de son impressionnante carrière, il a remporté plus de 3000 victoires, imaginez. Ce jockey est membre du Canadian Horse Racing Hall of Fame, du National Museum of Racing and Hall of Fame, du Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick et du Panthéon des sports canadiens. Il est également membre de l'Ordre du Canada. Michael Robitaille à Edmundston se souvient de lui en compagnie du maire de la municipalité régionale de Grand-Sault, Bertrand Beaulieu.
Bien sûr, c'était une surprise de voir M. Turcotte nous quitter. Et ça a été aussi, disons, une peine de voir qu'on perdait une légende, un héros comme on a, rarement dans une communauté. M. Turcotte a laissé sa marque à travers la province, à travers le pays, puis à travers les États-Unis. Alors, c'est une grande perte pour la communauté.
Oui, il a remporté plus de 3000 victoires au long de sa carrière et a aussi la triple couronne là, avec son cheval Secretariat en 1973. C'est un monsieur qui était reconnu même là, à travers le sport équestre là, mondial. Hein?
Reconnu de façon mondiale. Et ce qui est remarquable avec M. Turcotte, lors de sa triple couronne, il a battu des records dans les trois courses et encore aujourd'hui, ces records-là sont inégalés. Alors, il est demeuré une légende dans le monde des caisses, même après son accident. M. Turcotte a continué à être impliqué avec les jockeys et à s'impliquer aussi davantage avec les jockeys qui ont été blessés pour appuyer ces gens-là. Alors, quand on se promène au Nouveau-Brunswick, aux États-Unis, plusieurs endroits, le nom de Ron Turcotte est très, très connu. M. Turcotte, c'était un homme qui adorait être avec les gens, qui adorait rencontrer les gens, parler. Et il était loin d'être hautain malgré ses exploits. Il était très abordable pour parler avec les gens. Il adorait partager ses histoires et questionner les gens sur leur vécu aussi. Alors, les gens regrettent énormément le départ de M. Turcotte.
Vous allez lui rendre hommage, d'ailleurs, à la municipalité.
Oui, justement, d'abord depuis l'annonce de son décès, tous les drapeaux municipaux sont en berne. Les chutes des gorges sont éclairées en bleu et blanc, qui était la couleur de ces couleurs de course. Et puis, nous allons déposer aussi un livre où les citoyens seront invités à venir signer un livre de condoléances qu'on remettra à la famille par la suite. Et puis, la journée des funérailles, eh bien, les citoyens, évidemment, tout le monde ne pourra pas assister aux funérailles et se rendre aux salons funéraires. Alors, nous invitons les gens à se rendre devant le monument qui est sur le Broadway. Et puis, lorsque le cortège funèbre passera, il y aura une pause et un moment de silence pour honorer ce grand héros-là. Et moi, je qualifie M. Turcotte comme un digne ambassadeur de la région. Il ne se gênait pas pour dire qu'il venait de Drummond et de Grand-Sault. Et son nom va continuer à rayonner un peu partout à travers le monde. Alors, c'est incroyable de voir le nombre de personnes qui connaissaient Ron Turcotte ou qui connaissaient le nom de Ron Turcotte.
Mais merci beaucoup.
De rien, ça me fait plaisir.
Michael Robitaille à Edmonton pour IJL.
On vous salue bien bas, Monsieur Ron Turcotte. Voilà, c'est tout pour nous à Point de vue cette semaine. Merci à nos journalistes Alice Zanetta, Robert Savard, Sébastien Caron, Daniel Aucoin, James Olivier et Michael Robitaille. Rédaction nationale, Julia Chénu et moi-même, Boris Chassagne. Ici, à l'animation et à la réalisation, Point de vue vous est présenté par le Fonds canadien de la radio communautaire et l'initiative de journalisme local. Merci à vous d'être là chaque semaine. Portez-vous bien. Ciao.
Écrivez-nous radio@fréquenceinfo.ca, radio@fréquenceinfo.ca.